Le goalball a été inventé en 1946 dans l'espoir d'aider à la réadaptation des vétérans de guerre devenus aveugles. En 1976, au Canada, le sport devient pour la première fois une discipline paralympique. Le Canada espère remonter sur le podium en 2020, 16 ans après sa dernière médaille dans la discipline. Mais avant, Bruno Haché nous parle de l'importance du championnat du monde qui aura lieu ce printemps en Suède au Signal. Kevin Breton au micro, très heureux de vous retrouver. N'ayez crainte pour ma voix, c'est possible que je tousse une fois ou deux. Je pense que je suis terrassé par un mauvais virus. Mais qu'à cela ne tienne, en fin de semaine à Montréal, il y a un important événement sportif qui se déroule et je tenais absolument à en parler. Il s'agit du tournoi Invitation de Goalball. C'est la 18e édition, ça va avoir lieu au complexe récréatif. Et si vous ne connaissez pas encore le goalball, ben je vous promets qu'on va le découvrir ensemble aujourd'hui, puisqu'on a au bout du fil Bruno Haché. Bonjour Bruno.
Bonjour Kevin.
Est-ce qu'on sent un petit peu la frénésie à quelques heures du début des compétitions à Montréal?
Oui, pas mal. Je commence à être énervé un petit peu. Oui,
vous avez commencé pourtant le goalball à l'âge de 23 ans. Ça fait un petit bout de temps, un petit peu après avoir perdu la vision à 18 ans. Depuis ce temps-là, vous avez été aux Jeux de Rio en 2016. Parlez-moi un peu de votre implication dans ce sport.
C'est ma 19e saison cette année. Le tournoi d'invitation de Montréal est arrivé un an après mes débuts. Mon premier tournoi a été à Ottawa. Mm-hmm. Puis suite à ça, la personne a lâché le tournoi et Nathalie l'a pris en main. Puis c'est devenu le tournoi d'invitation de Montréal. C'est un gros tournoi. Il y a les Américains qui viennent à chaque année avec les Canadiens. On est tous sur des équipes nationaux. Dans différentes équipes, il y a des équipes qui sont très fortes grâce à ça, comme la Colombie-Britannique, il va y avoir California Crown.
Ça vient un petit peu partout en Amérique, ouais.
Exact.
Juste pour les gens qui ne connaissent pas le goalball, parce qu'on en a souvent parlé à l'émission, mais c'est possible qu'il y ait encore des non-initiés. C'est un sport qui est destiné aux personnes aveugles, même qu'il faut porter un bandeau. C'est quoi le but du jeu?
Le but du jeu, c'est une confrontation de deux équipes 3-3. T'as le ballon, t'es en situation offensive. Là, on peut se déplacer sur le terrain sans se frapper. On communique beaucoup. On a chacun nos positions, ailier gauche, ailier droit. Joueur de centre qui est placé un petit peu plus haut que les deux ailiers. Lorsqu'on a le ballon et qu'on peut se déplacer, on peut se déplacer entre deux joueurs, mais c'est toujours le repère et le but. Alors, on se déplace sur une ligne droite sur le but, puis on peut décrocher notre tir par rapport à où ce qu'on se situe au but. Parce que si on courait n'importe où, on ne saurait pas nécessairement où on se retrouve dans l'espace, puis on pourrait frapper notre joueur de centre ou notre allié gauche. Mm-hmm. Parce que le but du jeu au goalball, la situation défensive forme un triangle. La balle, elle a des grelots à l'intérieur, on doit rouler au sol. Alors, d'où part le ballon est très important. Alors, si on se déplace avec la balle, ils ne savent pas nécessairement où va partir la balle. Puis là, ça l'ouvre un peu les opportunités défensives. Parce qu'un triangle défensif à 3, on couvre 9 mètres de large, qui est le but. C'est très difficile de marquer lorsque le triangle défensif est vis-à-vis le ballon. Alors, si on se déplace, ça nous ouvre un petit peu des opportunités. Mais tout ça se passe les yeux bandés parce qu'on a des différents handicaps chacun. Il y en a qui ont vision totalement dans le noir. Comme moi, j'ai une vision partielle. Je fonctionne pas de canne blanche. Je peux passer inaperçu. Par contre, dès que je commence à lire ou les noms de rue ou les adresses, je peux pas les lire, c'est trop flou, faut que je me rapproche beaucoup. Mais sur un terrain de goalball, je pourrais voir le ballon de l'autre côté, ce qui est pas le but du jeu. La vision est bloquée complètement.
Ça serait une pénalité, oui.
Alors, ça se passe dans le noir, ça c'est la proprioception, la perception de l'espace. C'est des heures de pratique pour qu'on puisse viser la largeur du ballon. On est devenu très précis, mais c'est avec des heures de pratique aussi.
Et c'est pas comme dans la NFL ou au football où on demande à la foule d'être bruyante, d'être active lorsque l'équipe adverse a le ballon pour les déconcentrer. Là, au goalball, ça se joue en silence.
Complètement en silence. Les seuls joueurs qui peuvent parler, c'est ceux qui sont sur le terrain. Ou s'il y a un arrêt de jeu, les entraîneurs peuvent nous parler. Alors, c'est important que la foule reste silencieuse parce qu'on doit comprendre aussi ce que l'arbitre nous dit. Mais c'est ça. Si on aurait du bruit, on pourrait pas écouter comme il faut la balle. Ce qui est le plus important, c'est de localiser la balle. Alors, lorsque la balle roule en jeu, même les joueurs ne peuvent pas parler. Ça peut être une situation de pénalité.
Vous avez, j'en ai parlé en introduction, il y a un historique fort qui existe, qui unit ce sport et le Canada. On va pouvoir y revenir un petit peu plus tard, mais avant tout, vous vous êtes déplacé en Nouvelle-Écosse pour un autre championnat ou un autre tournoi semblable à celui qui va avoir lieu à Montréal en fin de semaine. Ça s'est passé comment de votre côté? Vous représentez l'équipe du Québec, là?
On a terminé cinquième à ce tournoi-là, mais c'est un tournoi qu'on garde en début de saison pour développer seulement les nouveaux joueurs. Alors, on est allé là, tout le monde jouait égal, tout le monde avait sa propre situation de match. Notre entraîneur avait tout préparé un plan qui était strict, nous mettre dans toutes sortes de situations difficiles, comme pour moi, elle m'a mis dans des situations où je ne jouais pas. Puis elle m'embarquait en plein milieu du match, puis il fallait que je performe ou en fin de match ou peu importe qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme situation, elle l'a situé comme ça dans un tournoi comme ça qu'on peut se permettre de nous donner de l'expérience un peu plus.
Quand vous dites elle, c'est coach Séguin qui vous entraîne
dans des compétitions. Exactement, Séguin qui est notre entraîneur de l'équipe du Québec et de l'équipe nationale aussi.
Semble-t-il qu'il va falloir travailler sur votre défense? C'est un aspect de jeu sur lequel vous voulez vous améliorer à Montréal?
Exactement, parce que dans le passé, j'ai déjà terminé le tournoi qu'on n'a même pas fait les demi-finales et que je terminais meilleur marqueur. Puis c'est pas par des gros buts, mais on arrive à prendre l'avance ou on tire de l'arrière, puis c'est pas mal serré, mais je vous dirais, si on peut améliorer un des petits points stratégiques de défensive ou aller chercher des buts, de bloquer certains buts, comme des fois, c'est le joueur de centre peut faire lever une balle, si on peut aller chercher du support ensemble, de fermer un petit peu les petits trous, les petites erreurs, mais je pense que ça peut faire une grosse différence dans ce tournoi-là.
Vous l'entendez, là, c'est tout à fait unique comme sport, toute l'importance de la dimension puis du positionnement spatio-temporel sur le terrain, la communication avec ses coéquipiers. C'est vraiment un sport unique et ben, pour ce faire, en fait, c'est un sport qui est à l'origine, ou en fait, c'est le handicap qui est à l'origine de ce sport-là. À l'inverse d'autres sports où on a, par exemple, essayé d'adapter le hockey pour des personnes en fauteuil roulant ou on a adapté le cyclisme pour des personnes aveugles, là, le sport a été créé pour ça. Est-ce que ça représente un avantage ou un désavantage dans une perspective de faire rayonner le sport puis de mousser sa popularité?
Bien, je dirais que ça va dans les deux aspects. Dans les désavantages, ce qui est difficile, c'est lorsqu'on veut développer ou on approche quelqu'un, bien, il faut faire découvrir le sport au début. Puis après ça, on peut rentrer dans d'autres aspects.
On part de zéro.
Exactement, on part de zéro. Puis l'avantage qu'il y a, c'est qu'une fois que quelqu'un l'essaye, je pense qu'il découvre un sport unique puis qui est incroyable, que ça l'accroche les gens. Ça devient une passion presque instantanée parce que moi, je me souviens, je connaissais pas du tout ça avant mes 18 ans. J'ai eu mon handicap. Moi, c'était toujours le hockey, fait que j'ai été intéressé vers les hiboux qui étaient le hockey, mais... Ça me prenait un petit peu plus loin, puis j'ai entendu parler du goalball qui était paralympique. Puis là, ben, là il y a une opportunité plus loin. Lorsque j'ai commencé le goalball, j'ai fait juste le réchauffement, j'étais complètement vidé, puis il me parle de 2h30 de pratique ensuite. Alors là, j'ai retourné chez nous, j'ai dit, je fais partie de l'équipe canadienne un jour, mais je suis vraiment pas en forme, j'ai du chemin à faire, puis le reste en est suivi.
Effectivement. Est-ce que c'est... Pour les sportifs de salon, comme par exemple moi, là, ou n'importe qui nous écoute à la maison, qui a une basse vision ou une cécité, est-ce que c'est possible d'apprécier ce spectacle-là en tant que spectateur aveugle ou s'il faut nécessairement le jouer pour l'apprécier?
Bien, un, c'est pour connaître. Si on connaît pas bien le sport, c'est difficile de seulement qu'entendre des sons ou des explications, mais à la radio, on explique tellement bien, mais des fois, on peut entendre un highball pénalité. Si on se le fait pas expliquer comme il faut, c'est difficile de suivre un match qui se passe très rapidement. Mais il y a beaucoup de règlements sur le site de la SAC aussi qu'on peut apprendre un peu comment ça se déroule une game de goalball. Mais de l'essayer, déjà là, ça amène un autre aspect. Mais si tu aurais des sports parallèles, comme tout sport qui existe, comme t'adaptes le hockey sonore, ben tout le monde connaît le hockey, tout le monde a déjà joué sur une patinoire à l'extérieur. on connaît c'est quoi le hockey, puis tu parles d'une luge, bon, ben c'est quoi une luge? Le reste, tu le connais du hockey.
Ouais, il y a des équivalents plus faciles à
Exact.
faire. Est-ce que il y a aussi toujours dans le processus de recrutement, puis dans l'optique de faire la promotion du sport, vous organisez aussi des ateliers, disons, un peu plus ludiques et récréatifs, du mini goalball. Est-ce que ça va aussi être une manière pour vous d'aller recruter des nouveaux talents?
Certainement, parce que on a de la difficulté toujours de. Les jeunes connaissent le goalball, ici on parle de goalball, mais ils n'ont aucune opportunité de pouvoir pratiquer en dehors de cours d'éducation physique ou autre. Mais là, on a déjà préparé des sessions. Il y a des spécialistes qui leur démontrent un peu le mouvement qui va développer le jeune un peu plus spécifique. Puis, en plus, il joue au goalball, il touche un ballon. On a adapté le ballon qui est un petit peu plus petit, des petites choses comme ça. Mais de là, qui joue, tu sais, une dizaine d'années comme ça avant d'avoir 18 ans, puis là, on le reçoit dans le gym, on part pas de zéro.
Et ça peut mener très loin, ces séances d'initiation-là. Ça peut même mener à Rio, comme dans votre cas, aux Jeux paralympiques.
Exactement.
Avant ça, il y a une étape importante, celle du championnat du monde qui va avoir lieu à Malmö, en Suède. On prend un instant pour faire une petite pause musicale, puis on revient pour en apprendre plus. Toujours avec Bruno Haché, restez là. Pendant la pause, la courte pause, je dois dire, l'admetteur en ordre me posait une question intéressante, à savoir si les personnes non aveugles qui n'ont aucune baisse de vision peuvent participer à ce sport-là. On peut jouer, mais de manière récréative. C'est bien ça, Bruno?
Oui, on peut jouer d'une manière récréative. Même, vous pourriez jouer sur l'équipe du Québec aussi.
Ah oui?
Oui, parce qu'on a, le droit pour compléter une équipe. Si on aurait seulement que deux joueurs non-voyants, on pourrait additionner un voyant avec nous qui serait identifié, mais on n'a pas le droit de mettre deux voyants sur le terrain en même temps, sur l'équipe du Québec.
Puis, de toute façon, c'est pas nécessairement un avantage pour une personne voyante de se bander les yeux puis de se rendre sur le terrain parce qu'elle n'a peut-être pas les mêmes capacités que des personnes aveugles ont développées à s'orienter dans l'espace. Est-ce que je me trompe?
Non, tu ne te trompes pas, mais c'est quelque chose qui se développe aussi.
Mm-hmm.
C'est un aspect de notre sport qu'on doit développer, qu'on doit entraîner comme un entraînement musculaire.
Mm-hmm.
Mais c'est là qu'on doit pratiquer beaucoup puis des heures de pratique. Mais j'en ai vu dans le passé, dans d'autres équipes, puis il était très bon. C'est seulement que tu n'as pas l'opportunité d'être sélectionné sur l'équipe nationale. Ça, c'est réservé complètement à avoir un handicap légal.
Bruno, vous allez vous rendre en Suède. Je vous envie beaucoup. Ça a l'air d'être un pays vraiment magnifique. Qu'est-ce que vous allez faire au printemps à Malmö, en Suède?
À Malmö, en Suède, c'est notre championnat du monde. C'est notre qualification qu'on pourrait se qualifier pour Tokyo. Notre but, c'est d'être dans les médailles. Les trois premiers sont automatiquement qualifiés pour 2 ans, ce qui est à dire automatiquement pour Tokyo. Sinon, on devrait faire un autre tournoi de qualité internationale de qualification au niveau des Amériques.
On a même tiré, là, c'était la semaine passée, je pense que c'était le 18, la fédération qui régit le sport a décidé ce qu'on appelle des pools ou des catégories, des divisions qui regroupent les différents pays. Vous allez avoir dans votre pays les Chinois et les Américains comme adversaires. C'est deux poids lourds sur la scène internationale en goalball, non?
Oui, les Chinois ils ont descendu un petit peu. Mais par contre, c'est toujours une puissance. Le top 10 mondial, c'est des puissances. On a toujours été dans le top 10. On a toujours été aux Paralympiques les dernières années. C'est sûr qu'on a eu des difficultés, mais au dernier, à Rio, on a terminé le quart de finale. Ça a été jusqu'en deuxième prolongation contre la Lituanie, qui ont gagné la médaille d'or. Ça a été notre match à vie. Si on passait les quarts de finale, je pense qu'on se rendait en finale. C'était quasiment la finale, là, autrement dit.
OK. Donc, à part les Américains, les Canadiens, les Chinois, est-ce qu'il y a d'autres puissances qui se démarquent sur la scène internationale?
La Suède aussi, c'est une bonne petite équipe. Ils sont très jeunes, sont vifs, ils déplacent beaucoup la balle. Il y a les Allemands aussi qui ont... On a eu de la misère un peu à Rio contre eux. Ils lancent vraiment différent des autres. il court d'un côté avec l'effet de la balle d'un autre côté.
Okay.
Alors, si on est trop rapide en défensive, on n'écoute pas assez. Mais là, on se faisait avoir de... Mais c'est spécial. À l'international, il y a des trucs qu'on voit pas nécessairement toujours. Fait qu'il faut s'adapter très rapidement. Puis c'est un aspect qu'on a beaucoup au Canada parce qu'on se voit pas beaucoup, les joueurs. On doit s'adapter très vite ensemble à comparer en Europe où les joueurs sont souvent ensemble, jouer contre les autres pays qui sont proches l'un de l'autre. Nous, ici au Canada, on joue souvent un contre l'autre.
Ça, est-ce que c'est un frein au développement du goalball? Parce que, tu sais... On se compare une équipe qui serait en France, ce serait facile pour elle de se rendre en Belgique ou en Suisse pour faire des compétitions. Mais pour une équipe du Québec, se rendre en Colombie-Britannique, ça représente des coûts, là.
Ouais, ça représente des gros coûts de se voir. C'est pour ça qu'on se voit dans des tournois l'un contre l'autre. Mais on essaye de suite à un tournoi comme en fin de semaine, on va rester lundi et mardi ici en ville. On va se pratiquer ensemble, on fait un petit camp d'entraînement, on essaie de rendre des petites possibilités comme ça, mais c'est pas régulier. À comparer, si on se compare à l'Europe, c'est sûr que on peut voir ça comme un frein.
Mm-hmm.
Mais d'un autre côté, on s'entraîne beaucoup individuellement. On essaie d'emmener des aspects que l'on voit, des choses à travailler. Mais c'est ça, on doit développer l'aspect de s'adapter très rapidement.
Au Canada, on est classé 8e mondial en ce moment. Vous avez déjà remporté, les hommes, une médaille d'or en 96. Les femmes ont remporté, les hommes, c'était une médaille d'argent. Les femmes ont remporté la première position en 2000, en 2004. Qu'est-ce que ça prend maintenant pour pouvoir espérer un podium à Tokyo en 2020?
Bien, rendu aux Paralympiques, déjà là, c'est la crème de la crème.
Mm-hmm.
Tout peut arriver rendu là. Ce qui doit arriver, c'est qu'on continue à travailler. Puis si on monte justement notre niveau d'un cran, on va être encore plus difficile à battre. Moi, ma philosophie, c'est toujours ça. Tu deviens meilleur de jour en jour, tu es plus difficile à battre. Puis lorsqu'on est aux Paralympiques, ben tout peut arriver rendu là. Tous les aspects, toutes les équipes doivent s'adapter. C'est des terrains qu'on voit pas régulièrement. Il y a des équipes qui ont accès à ce terrain-là, tandis que nous, c'est toujours sur du bois, puis on arrive à l'international comme ça, des grosses compétitions, c'est sur un Terflex, qui est un genre de caoutchouc. Fait que c'est un petit peu différent. On a découvert des choses que je dois travailler quand j'arrive sur un terrain comme ça, que normalement, sur du bois, ça le fait pas, parce que le bois, il glisse un peu plus, tandis que le caoutchouc, sur caoutchouc, la balle et le terrain... Des fois, mon ballon coince un peu au sol, puis il bondit plus loin, puis je dois varier mes lancers. Puis...
C'est comme les tennismen qui doivent s'adapter à la surface.
Exactement.
On vous souhaite évidemment le ticket d'entrée directement de Malmö vers Tokyo. Sinon, il va y avoir d'autres tournois régionaux durant lesquels vous aurez l'occasion de vous qualifier. Mais avant qu'on se laisse, Bruno, est-ce que vous pouvez me donner un mot sur le tournoi qui a lieu en fin de semaine au complexe récréatif Gadebois? Quand est-ce qu'on peut vous voir à l'œuvre? Puis à quoi tu t'attends de ce côté-là?
Le tournoi de Montréal, on a un petit peu qualifié notre niveau environ qu'on finit au moins 5e, qu'on se classe comme il faut dans le round robin pour les quarts de finale, qu'on soit bien positionné. Si on va pas en demi-finale, ben on est quand même satisfait, mais mon objectif, c'est sûr, c'est d'aller vers la médaille d'or. Je te dirais que les équipes à battre, c'est Crown et Colombie-Britannique. Si on réussit à passer ces deux équipes-là, je pense qu'on est en finale et même on peut gagner l'or.
Et c'est gratuit pour aller vous voir jouer?
C'est gratuit en fin de semaine pour venir nous voir, puis c'est toujours agréable d'avoir une foule. Puis c'est silencieux lorsque le jeu se joue,
mm-hmm.
Mais lorsqu'un but, c'est là qu'on peut exploser puis encourager l'équipe à fond.
Mais c'est possible d'aller encourager toutes les équipes, mais les Québécois, vous jouez ce soir, vendredi soir à 19h et samedi matin à 8h50. Quand est-ce qu'on va savoir si vous qualifiez pour les quarts de finale dimanche?
C'est après le match de 2h25.
OK, puis là, on va connaître.
On va savoir à quelle heure le quart de finale, puis ensuite, on va savoir si on joue dimanche, c'est notre objectif.
On va suivre les résultats de près. En terminant, une petite colle pour toi, Bruno Haché. Tu as parlé un petit peu plus tôt, en début d'entrevue, que tu aimais bien le hockey. Tu joues avec les Hiboux, qui est un club de hockey Sonore pour aveugle, on en a déjà parlé au Signal, c'était vraiment intéressant. Est-ce qu'un jour tu aimerais ça pouvoir conjuguer les deux sports, l'hiver le goalball, l'hiver le hockey puis l'été le goalball, ou en tout cas, je ne sais pas si à quel point les calendriers se chevauchent là.
C'est sûr, mon calendrier est déjà rempli, mais si je m'entraîne déjà côté de haut niveau, si c'est, ça permet que peut-être ma retraite de goalball est virée au hockey, mais c'est sûr, mon intervention, c'est toujours d'aider le hockey sonore à se développer, puis peut-être un jour, on continue à rêver qu'il soit aux Paralympiques, puis peut-être des joueurs futurs pourront être à l'échelle internationale côté déficience visuelle.
C'est le moment de faire du recrutement, peut-être faire des transferts, des hiboux vers le goalball ou le chemin inverse.
Exactement, mais c'est chacun son choix et sa passion. Puis...
Super, ben on va vous souhaiter la meilleure des chances en fin de semaine, Bruno Haché, pour le tournoi invitation de goalball qui a lieu au complexe Gadbois. On va également suivre évidemment les résultats de près pour le tournoi au printemps en Suède. On va espérer que vous allez obtenir votre billet d'entrée pour Tokyo. Merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
Ça me fait plaisir, au plaisir de se reparler.
Bien sûr, merci beaucoup à Bruno Haché. J'en profite avant de passer à l'intermède musical et de passer aux nouvelles en bref, pour vous dire qu'il y a quand même des liens qui sont mis sur notre site internet, sur vusevoix.com. Si jamais vous voulez en apprendre plus, il y a des liens sur la carrière de Bruno Haché ou encore sur l'horaire complète de ce tournoi ou encore un article bien intéressant que j'ai trouvé sur paralympique.org qui explique les enjeux du goalball en 2018. Et on conclut cette émission avec, comme promis, quelques nouvelles en bref qui ont retenu mon attention dans le monde du parasport. Et ça bouge beaucoup, hein? Et ça paraît que l'effervescence des Paralympiques commence à se faire sentir. Tout d'abord, le champion à 10 reprises des Jeux paralympiques, Brian McKeever de l'Alberta, a entrepris sa saison de ski paranordique avec des médailles d'or et d'argent. En fin de semaine dernière, c'est dans une Coupe du monde qui avait lieu à l'île du Prince-Édouard. De son côté, Emily Young de Kelowna en Colombie-Britannique a aussi ajouté une médaille d'argent et de bronze en compagnie de son guide. Puis je vais aussi vous parler d'un autre athlète québécois, celui-ci, Sébastien Fortier, qui participait à la même Coupe du monde. On sait que maintenant qu'il peut répondre à la pression parce que depuis qu'il a participé à ce tournoi-là, disons, ou avant de participer à ce tournoi-là, l'athlète rongeait son frein parce que ses bagages avaient été perdus dans une escale alors qu'il était en route vers le tournoi. Ceux-là ont finalement été redonnés une demi-heure avant la course de mardi, une demi-heure avant le début de la course de mardi matin. Puis c'est en catastrophe que Fortier a finalement pu se lancer en piste. Puis il a bien fait quand même là, dans les circonstances. Il a terminé 17e de l'épreuve de sprint dans laquelle le Canadien Colin Cameron a été médaillé de bronze en finale. C'est un article que j'ai tiré du journaliste Mathieu Laberge pour Sportcom. Tous les résultats de la Coupe de Paranordique est disponible sur leur site internet. Côté de Québec, maintenant, le Challenge hivernal Adapte ta vie est de retour pour une 8e édition. Cette année, les compétitions auront lieu du 22 janvier au 25 mars. Au programme, on retrouve une tonne de nouveautés pour satisfaire votre soif sportive. Vous aurez l'occasion d'essayer une multitude de sports adaptés grâce aux nombreuses activités d'initiation offertes. On rappelle que le Challenge hivernal du côté de Québec est né de l'initiative d'intervenants de l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec, l'IRDPQ, qui désirait voir un tel événement se réaliser. Ceux-ci ont alors approché l'organisme Adaptavie pour agir en tant que promoteur. Parallèlement, un partenariat avec le prestigieux défi sportif qu'on connaît bien ici à Montréal a été établi, ainsi qu'un comité organisateur conjoint a été formé pour lancer et développer le projet qui connaît beaucoup de succès. Maintenant, en athlétisme, le couple Ilana et Alexandre Dupont a connu beaucoup de succès lors du Canberra International Track Meet qui se déroulait la fin de semaine dernière en Australie. Alexandre a remporté la médaille d'argent à l'épreuve du 800 mètres, alors qu'Ilana a décroché le bronze au 200 mètres. À l'épreuve du 100 mètres, Ilana s'est d'abord qualifiée quatrième samedi. En finale, le lendemain, elle a conservé son quatrième rang et a enregistré un chrono de 18 secondes et 33 centièmes. Au 400 mètres, elle a parcouru la distance en 1 minute et 10 centièmes, ce qui l'a placée au cinquième rang de l'épreuve. À l'épreuve masculine, sur la même distance, Alexandre a terminé en cinquième place avec un temps de 48 secondes et 73 centièmes. C'est un texte que j'ai trouvé sur Parasport Québec. Et puisqu'on a commencé l'émission en vous parlant de la SAC, donc l'Association sportive des aveugles du Québec qui organise le tournoi Invitation de Goalball de Montréal, on va terminer l'émission en parlant d'eux encore, puisque la SAC est heureuse de souligner la participation de deux de ses membres, Cindy Morin et Annie Bouchard, au programme de la relève en paracyclisme de Cyclisme Canada. Je vous en glissais un mot la semaine dernière. Le 18 janvier dernier, Cyclisme Canada a annoncé un accroissement important de ses programmes de la relève grâce à la mise en place de programmes axés sur la relève de l'Est et de l'Ouest du Canada. Les athlètes canadiens de paracyclisme figurent parmi les meilleurs au monde et ont remporté le nombre incroyable de 11 titres mondiaux sur route et sur piste seulement en 2017. C'est déjà la fin de l'émission et je suis heureux d'avoir pu passer à travers, comme on dit. Merci beaucoup à Mathieu d'avoir été avec moi pour m'accompagner dans ce périple. Manquez pas la semaine prochaine, ça va être un grand moment de retrouvailles pour moi, ça promet d'être très émotif parce que j'ai un de mes grands amis, un aventurier qui est parti 4 ans et demi à travers le monde, revient à Montréal, je ne l'ai pas revu depuis 4 ans et demi. Et puis, il va être ici en studio pour nous parler de ses accomplissements. Il a notamment gravi l'Everest. Et on a récemment donné une interdiction aux personnes amputées et aux personnes aveugles de grimper l'Everest. Il n'est maintenant plus possible de le faire. On va s'interroger sur cette question-là avec mon ami qui s'adonne bien parce qu'il est aussi diplômé bachelier en philosophie. Donc, il va pouvoir nous parler à la fois de son expérience comme aventurier qui a gravi les plus hautes montagnes, mais également nous emmener un petit côté philosophique. On n'en parle pas souvent de philosophie à l'émission, puis je suis content de le faire. Merci beaucoup d'avoir été là. Encore une fois, merci à Christiane, merci à Mathieu, merci à tout le monde. Je vous retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien et gardez le sourire.